Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, les finalistes du secondaire des provinces occupées au nord et du sud qui vous sont exemptés de frais de participation aux épreuves certificatives nationales dont l'examen d'état 2025. Le gouvernement congolais a décidé de prendre en charge ces frais dans ces zones sous occupation rebelle. Les épreuves concernées sont l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP et puis le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASO. Et les épreuves hors session et session ordinaire de l'examen d'état édition 2025. Ces décisions sont contenues dans la note d'information du vice-ministre de l'Éducation nationale Nouvelle Citoyenneté, présentée lors de la 44e réunion du Conseil des ministres du vendredi 23 mai courant. À noter que lors de la 42e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 2 mai courant, la première ministre Judith Suminwa avait annoncé que des dispositions sont en cours pour permettre aux élèves finalistes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu de participer aux examens malgré l'insécurité. Par ailleurs, le 18 mai courant, les parents d'élèves finalistes du primaire dans les territoires de Djougou ont demandé au gouvernement de les exempter du paiement des frais de participation aux examens aux épreuves du TENA SOSP et de l'examen d'état édition 2024-2025 à la suite de l'insécurité persistante dans cette partie du pays. Comment commentez-vous cette actualité? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou encore réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore appeler en direct en composant les zones en 9 7 6 80 79. Justin Siala est à la mise en œuvre de ce magazine. Je lui fais à Bongonda et Gloria Lutula sur la réalisation et la coordination. Nelson Nyombe est là pour l'équipe multimédia. Et au micro, c'est Marcel Ngombala. Tout à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre en direct sur Facebook, YouTube et X qui sont là les plateformes digitales de Radio Okapi. Et pour parler de cette question de l'exemption des frais des participations et d'examen d'État pour les candidats du Nord et Sud du Kivu, mais aussi on va parler de la province sous état de siège de l'Ituri. Nous avons dans ce studio l'honorable Amoule Kizito. Honorable, bonjour.
Bonjour, je Marcel Ngoma.
Ngoma, voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes député national élu de Haro dans la province de l'Ituri. Alors, cette première question, honorable, quelle lecture faites-vous déjà entre ces décisions du gouvernement, à commencer d'abord par les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, d'exempter les finalistes de frais, qu'il s'assoit de l'ENAFEP, qui est l'examen national des fins d'études primaires, qui s'assoit du test national de sélection et de rotation scolaire et professionnelle TENASOSP, et aussi des épreuves hors session et session ordinaire de l'examen d'État édition 2024-2025.
Merci pour la parole. Je pense que par rapport à ça, il y a une des démarches qui ont été faites par rapport à l'exonération des examens d'État dans le Nord et Sud Kivu. Je me rappelle, au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait un député
oui.
qui avait saisi le président de l'Assemblée nationale pour faire ça. Je pense que ça a eu lieu l'année passée, l'année scolaire passée, ça a commencé dans le Nord Kivu.
Dans le Nord Kivu, oui.
Et pourquoi vous n'êtes, le Sud Kivu n'était pas concerné. Alors, cette même démarche, parce que c'était une démarche personnelle d'un député, alors, comme ça a eu lieu à l'époque, cette même démarche a été encore effectuée cette année. Et cette fois-ci, on a ajouté le Sud Kivu. C'est comme cela que moi, comme député national, connaissant le mandat que j'ai du peuple, je ne pouvais pas non plus rester calme par rapport à ça. Parce que les éléments qu'on a pu évoquer dans ça, c'était sous l'état de siège. Pendant que si vous voyez qu'on parle de l'état de siège aujourd'hui dans ces pays, il y a des provinces. Il y a d'abord le Nord Kivu, naturellement, et l'Ituri, qui sont l'ordonnance qui a conféré cet état de siège, c'était une seule même ordonnance qui a donné les deux provinces sous l'état de siège. C'est comme cela que moi, à mon niveau, cette année, j'ai saisi par motion de formation l'Assemblée nationale et j'ai écrit au président de l'Assemblée nationale. Je lui ai demandé, la lettre elle est ici, je lui ai demandé de ressaisir parce que le président avait saisi Madame la Première ministre pour exempter les non-récidives et je lui ai demandé de ressaisir. La lettre elle est claire. Donc on a ressaisi le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale a ressaisi comme nous disions,
oui,
le 8 mai, Madame la Première ministre, parce que je m'étais référé à son lettre qui était écrite le 25 avril 2025. Faisant suite à sa lettre numéro 421/CAB/PR/Assemblée nationale/P/VK/Administre/PCB 25 du 25 avril. Maintenant, lui, quand il a ressaisi Madame la Première ministre, c'était le 8 mai. Il a précisé ici, j'ai lu, j'ai réussi à ce jour en audience des députés. Parce que quand nous, on a fait ça,
oui,
directement, nous sommes allés le voir. Et comme il a ressaisi, et c'était maintenant question de pouvoir débattre de cela
au conseil. Mettez-vous en face du micro, oui.
Il était maintenant question de pouvoir débattre de ça au conseil des ministres. Et cela a eu lieu le vendredi dernier, et ça a été acté. Et directement, à la sortie de ça, il y a eu compte rendu du ministère, des conseils des ministres. Et le ministre, le vice-ministre de l'EPST m'a fait un SMS pour dire, écoutez, votre requête a été actée. Nous sommes déjà dans les calculs pour pouvoir aussi insérer la province de l'Itourie. Donc maintenant, là, je vous dis, la province de l'Itourie est aussi concernée par l'exemption de ces épreuves-là.
La province de l'Itourie est également concernée, mais maintenant... la question qu'il faudra se poser, tout a été déjà, je pense, fin prêt pour ce qui concernait les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. Et maintenant qu'on vient d'insérer également la province de l'Ituri, est-ce que vous êtes en train de suivre pour vous assurer qu'également, pour ce côté-là, du côté de frais qu'il faudra payer, le gouvernement est déjà dans les processus pour faire en sorte que ces finalistes, que ce soit du primaire ou du secondaire, passent sans payer les frais de participation, que le gouvernement va tout prendre en charge?
Nous suivons ça de très près. Je pense que ce sont les hommes d'État avec qui nous communiquons tout le temps. Et je crois, madame, même ces jours-là, dès que la demande a été actée, on a mis en place les services qui a pu œuvrer pour calculer les frais rapidement. Je crois tout l'argent qu'on récolte, c'est pour l'État. Dès que l'État dit, écoutez, moi j'exempte cette catégorie de personnes, ça veut dire lui-même sait ce qu'il fera de cet argent. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Nous faisons foi à l'État, parce qu'il faut savoir dire. Nous, les députés, on a l'habitude de dire seulement le mal. Il faut aussi dire ce qui est bien fait. Parce que faire la justice, c'était aussi d'inclure la province de l'Ituri. Car les motifs primordiaux étaient de pouvoir aider les pays et les provinces qui sont en état de siège. On ne peut pas oublier l'Ituri. Mais nous, on a compris, parce que le Sud Kivu était aussi en difficulté. On les a aussi associés à ces combats-là. Et je crois que c'était tout à fait légitime de pouvoir prendre en compte la province de l'Ituri. Ce qui est fait, je viens ici pour dire merci au gouvernement de la République, au président de la République et au président de l'Assemblée nationale qui était vraiment comme un papa, qui a compris rapidement, et aussi à Madame la Première ministre, au son gouvernement.
Alors, maintenant, la suite, c'est de sensibiliser en tout cas tous les corps enseignants dans cette partie du pays, pour qu'on sache que l'Ituri est également concerné, parce qu'on le sait, dans son pays, quand bien même que l'État prend des décisions de prendre en charge le frais des participations, il y a des fois des autorités scolaires qui essaient d'échapper à cela, parce que ils cherchent toujours des moyens pour essayer de soutirer aux parents un peu d'argent.
Vous avez totalement raison. C'est comme cela que moi, comme député national, avec ma radio qui est locale, qui fait les relais tout le temps de la radio Capi, on est en train de dire chaque matin, chaque soir, qu'on cesse de demander de l'argent par rapport à ces frais-là. Parce que l'État a déjà pris en charge ces frais-là. Donc, et nous avons posé la question. Il y a quelques honorables députés qui ont réagi directement. Ils sont allés voir le ministre pour dire, écoutez, vous savez bien que chez nous, quand on reçoit l'argent, les remboursés posent problème. Madame a dit, on va faire une note circulaire qui va déterminer que tous ceux qu'ils ont reçus comme argent doivent rembourser. Parce que, vous savez, dans ces pays, quand on reçoit l'argent, les rembourser pose problème. C'est pas seulement dans les systèmes scolaires, c'est dans tous les systèmes, même si vous achetez des choses au magasin, et pour les retourner, ça pose problème. C'est comme cela que tous les élus que nous sommes, nous avons demandé à chacun dans sa circonscription électorale, surtout faisant partie de l'Ituri, de pouvoir commencer la sensibilisation. Pour ne pas mettre les gens en difficulté, pour que quand les gens vont se rendre compte plus tard que c'était exempté, vous voyez ce que ça pourra faire entre les corps enseignants et les parents des élèves. Donc c'est ça.
D'accord. Donc c'est ça. On va bientôt ouvrir le standard parce qu'il y a des auditeurs qui aimeraient déjà intervenir. Nous avons déjà Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Bombashi. On a également Sylvain Aguenoff qui est à Mayagi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de l'exemption de frais de participation pour les candidats du Nord et Sud Kivu pour ce qui est l'examen d'état 2025. Mais également, vous avez suivi avec notre invité, honorable Amoulé Kizito. Il est également la province de l'Ituri qui emboîte déjà le pas aussi à ces deux provinces. Mmh. Pour réagir, si vous êtes intéressé par ces sujets, comment appelez plutôt 099-756-80-79.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience
qu'il n'a pas bien travaillé.
Le intouchable, là, ce pays n'existait pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Voilà, on y va avec le tout premier auditeur qui nous appelle depuis Mayagi, Sylvain Aguenoff. Sylvain, vous avez la parole.
Bien, je voudrais saluer honorable Kizito. Je n'ai pas l'intention de donner ici le cours des finances publiques, spécialement des budgets au gouvernement. Mais il faut dire ceci, lorsqu'on parle de la scolarité de la petite enfance, nous voyons ça dans certains pays du monde qui sont organisés, le secteur public de l'enseignement est financé totalement par les budgets de l'État. Nous avons un député au studio. Et donc, nous n'avons toujours pas compris comment est-ce que, et même si les partenaires en éducation nationale au Congo, tels que l'UNICEF, Save the Children, qui viennent au soutien des budgets de l'État dans les secteurs de l'enseignement, les parents continuent à payer de l'argent. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse changer les choses. Et les secteurs privés qui viennent se payer au secteur public, dans la scolarité de la petite enfance, est totalement financé par les parents, puisque c'est le choix. Et donc, je voudrais, avant d'entrer dans les vifs du sujet, déjà demander à l'honorable Kizito de pouvoir analyser cette histoire dans les budgets prochains. Nous restons avec quelques années pour le mandat du président, afin que nous puissions venir. Il faut que finalement, le secteur public de l'enseignement vienne une charge totale de l'État congolais et que les parents chargé totalement de la prise en compte de ces histoires-là dans le secteur public. Et donc, nous parlons du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Bon, moi, je dis, il ne faut pas cantonner, il ne faut pas se créer d'autres frustrations. Monsieur le journaliste, je vais partager à 30 secondes mon expérience. Moi, j'ai fini les examens d'État, tous les coups de balle sont à 2003. Et nous étions dans les centres de passation des examens, nous étions surveillé par les militaires, les policiers. Et vous imaginez les contextes dans lesquels nous avons passé ces examens. Aujourd'hui, on a fini les universités, nous enseignons à l'université et ailleurs. Donc, il faut qu'on ait pitié de ces enfants qui sont touchés dans les zones criblées par les groupes armés, qui d'ailleurs revient de la responsabilité du gouvernement, qui n'a pas à s'y mettre des politiques responsables pour protéger, c'est pas les espaces qui lui appartiennent. Nous tous, nous soutenons les présidents de la République, nous soutenons ce gouvernement qui est mis en place, mais nous devons dire certaines vérités pour ceux qui nous dirigent, puisque c'est inadmissible que des provinces comme l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et d'ailleurs d'autres qui existent, non seulement dans l'Est, mais aussi dans d'autres coins de la République, que l'on continue à soumettre les parents à payer les frais de passation des examens. Mais le Congo ne manque pas les moyens. Mais si les députés aident nous à renforcer cette histoire, nous ne voulons plus attendre que les enfants en RDC, les années à venir, et d'ailleurs c'est notre plan au sein de l'Alliance citoyenne pour le réveil du Congo, une fois nous prenons le pouvoir, nous allons décharger les parents de la prise à charge des frais de scolarité à 100%, mais sauf ceux qui seront dans les écoles privées, et ces écoles privées qui seront soumises à des standards qui répondront à des qualités meilleures de l'éducation nationale, qui auront des subsides de l'État, et ça pourra avancer. Donc, c'est trop difficile aujourd'hui de pouvoir laisser certaines parties du pays continuer à payer comme si elles étaient dans les autres parties qui vivent la paix. Non seulement l'Ituri, le nom qui veut le site qui vous j'insiste, que l'État essaie de voir d'autres coins de la République qui traversent la même situation afin que les parents soient déchargés de la prise en charge de ces frais qui sont liés aux examens d'État ou même aux frais de passation pour le niveau élémentaire.
Voilà, merci beaucoup Sylvain Aguenoff depuis Maragui. Et cette fois-ci, on va écouter Maître Patrick Audier qui nous appelle depuis Lubumbashi. Maître Patrick, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à l'honorable et à tous les auditeurs de la radio. Marcel, j'ai rappelé hier, aujourd'hui, j'ai rappelé qu'hier nous avons fait une émission sur les ODD. Et l'un des points, des 17 points de l'ODD, des ODD, parle également de l'éducation. Il dit l'éducation, ça englobe la scolarité, donc le système éducatif. Et pour qu'on parle même des études supérieures, il faut qu'il y ait une base
Maître Patrick, vous êtes dans un endroit très bruyant, il me semble. Hein. Vous, si vous voulez vous déplacer un petit moment, ou bien demander, je ne sais pas si c'est possible de demander autour de vous qu'on se calme un peu, hein, parce que là, on a du mal à vous suivre.
Alors, maintenant, vous me suivez?
Bon, allez-y.
Oui, je disais que c'est l'un des objectifs des ODD que nous avons discuté hier. Il faut saluer l'initiative du gouvernement, surtout pour Tenasos P et aussi l'examen d'État Marcel. Mais pour l'école primaire, par exemple, les Tenafep, je pense que cela rentre dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Et cela, c'est constitutionnel, voire même réglementaire. Et la gratuité de l'enseignement prenait en compte même le frais, entre guillemets, du système de TENAFEP également. Mais si aujourd'hui, le gouvernement a alourdi la mesure jusqu'à aller de la société, de la grande État, pour les trois régions, j'allais dire les deux, trois provinces qui sont dans l'insécurité, parce que c'est un acte à louer, à saluer également. Mais il faudrait également se poser de vraies questions. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait cela? C'est parce qu'il y a l'insécurité et que les parents ne sont pas en mesure de pouvoir fonctionner. Est-ce que les mesures sont en train d'être prises pour qu'à la prochaine, on puisse permettre les parents de bien évoluer, je parle de la paix et de la garantie sécuritaire, pourrait permettre aux parents de prendre soin de leurs enfants également. Il ne faudrait pas rester dans cet état un an, deux ans, trois ans pour que le gouvernement continue à prendre toujours en charge. Donc, de l'autre côté, il faut que le gouvernement accélère les mesures de la sécurité et de la paix également dans ces régions pour qu'à la prochaine, les parents voient dans leurs préoccupations. Parce que si nous parlons de l'éducation, par exemple, parlons également de l'habillement. Est-ce que le gouvernement pourra donner la tenue scolaire? Est-ce qu'il pourra donner les cahiers pour les autres jeunes? Ce sont des questions que nous demandons parce que les raisons économiques pour lesquelles le gouvernement a pris en charge continuent même dans d'autres aspects de la vie, notamment de l'achat des uniformes, même manger et tout ça. Donc, la question primordiale serait de prendre en charge la question sécuritaire et mettre en place les mécanismes nécessaires sur le plan diplomatique et sur le plan sécuritaire pour permettre à ses parents d'évacuer leurs préoccupations sans pour autant oublier de saluer la mesure qui a été prise. Ça, c'était peut-être un point à ne pas discuter. Ce qui est fait, nous devons également remercier l'honorable pour ses analyses et dont son soutien également est nécessaire à cette initiative également. Et Marcel, je voudrais souligner que les mêmes enseignants ou les mêmes élèves ont été enseignés par des personnes comme nous, mais qui se sont sacrifiés pour les enseigner. Et vous avez vu sur Radio Capi hier ou avant-hier, il y a quelques enseignants qui ne reçoivent plus, je ne dirais pas, durant 3 mois, 4 mois, pas leur salaire. Mais quand on prend en charge les enfants, par exemple, TENAFEP et tout ça, mais il y a des enseignants qui ont fait les enfants plus avoir de la matière, il y a qui pourra leur permettre de pouvoir présenter ce permis. Ces enseignants ne sont pas payés, il y a des salaires communs. J'interpelle le gouvernement, j'interpelle l'autorité budgétaire qui est dans les studios de l'Europe, pour que cette question, que j'ai vu les enseignants ont fait des marches, que les citoyens ont écrit des discours de temps, si je ne m'abuse pas, il faudrait également vérifier, parce que c'est passé, il y a une information sur Radio Capi. Il faudrait également prendre en compte la question des salaires des enseignants. Et là, c'est également un équilibre. Mais prendre seulement les élèves et lesquels les enseignants, qui sont toujours, c'est pour moi, c'est sacrifié. C'est pas le point de base pour les enseignants, ça serait de l'injustice. Là, vous êtes en train de
le voilà, merci. Merci, maître Patrick Odia. Il y a trop de bruit autour de vous, mais on a compris l'essentiel de votre intervention. Merci d'avoir appelé depuis Lubumbashi. On va cette fois-ci à Kisangani. C'est Blaise Eddy qui est en ligne depuis Kisangani. Blaise Eddy, vous avez la parole.
Oui, merci, cher Martin. Bonjour à notre invité qui est l'honorable. Nous félicitons l'honorable pour répondre à la thématique du jour. Cher Marcel, la décision du gouvernement congolais de prendre en charge les frais de participation aux examens d'État et aux CNASOS pour les finalistes de l'éducation de base et des humanités des provinces nord et sud-Kivu constitue une mesure salutaire et hautement symbolique dans le contexte actuel. Donc, à mon avis, je crois que c'est un geste de solidarité face à la crise humanitaire. Il y a une réponse aux plaidoyers locaux. Il y a un pas vers l'équité éducative, cher Marcel. Cher Marcel, la prise en charge des frais de participation aux examens d'État et des CNASOS pour les finalistes des provinces précitées représente une mesure concrète de soutien aux populations affectées par les conflits. Elle témoigne la volonté du gouvernement de promouvoir l'accès à l'éducation pour de l'éducation pour tous, même dans le contexte le plus difficile est de construire un avenir meilleur pour la jeune génération de la RDC. Cher Martin, je vais à l'invité, puisque c'est lui qui est le représentant du peuple. La première question. Dans le cadre des réformes de l'enseignement en RDC, quels sont les obstacles à la remise des certificats aux finalistes de l'éducation de base? Puisque aujourd'hui, lorsque les enfants passent les examens, dont les CNASOS, donc depuis que les enfants ont commencé à passer cette épreuve, il n'y a jamais eu remise des certificats. Donc, quels sont les obstacles? Deuxième question, cher Martin. Comment le gouvernement compte-t-il assurer la prise en charge des surveillants des examens d'État et des tenants suspects, alors que depuis la perte de contrôle sur Goma et Bukavu, les enseignants et le personnel éducatif ne sont pas plus rémunérés par le gouvernement congolais? Enfin, la troisième question, faut-il considérer cette prise en charge comme une réponse politique? Voici à quelque sorte, cher Marcel, l'invité peut nous donner quand même une lumière à ce qui concerne cher Marcel. Alors,
Blaise Eddy, vous voulez bien répéter la troisième question? Faut-il considérer cette prise en charge parce qu'il y a eu une petite interruption? Répétez un peu la troisième question.
Voilà, la troisième question. Faut-il considérer cette prise en charge comme un geste humanitaire ou une réponse politique? Voici ça, la troisième question, voilà, cher Martin.
Merci, Blaise Saïdi. Depuis Kisangani, là maintenant, on sera au sud, à Bukavu, dans le sud Kivu, avec Lissiza Evariste, qui se présente comme enseignant. Lissiza Evariste, vous avez la parole.
Merci, bonjour à tout le monde, Radio Capi. Bonjour à notre invité. Je tiens d'abord à remercier, nos remerciements d'abord à gouvernement congolais, avoir songé et à prendre en charge les frais de participation aux épreuves certificatives à tous les apprenants de nos provinces en détresse. En second lieu, avoir envoyé les items parce que nous avons suivi, ils sont déjà arrivés à Beni, c'est pas dans quelle autre destination ils pourront encore atteindre le sud Kivu. Mais ça, c'est vraiment déjà un pas en avant qui montre que le gouvernement congolais reste toujours en train de souffrir, en train d'empathir avec la jeunesse congolaise, celle qui habite l'Est et qui est sous occupation. En plus, n'allons pas passer également sous silence les efforts fournis par les rebelles pour avoir accepté aussi de coopérer avec le gouvernement dans ce sens-là de la prise en charge de la jeunesse. Nous n'allons pas oublier qu'ils vont également se mobiliser à sécuriser les centres d'examen. Et ça, c'est de leur devoir parce qu'ils se disent congolais. Et ça, on ne veut pas également discuter. Après les remerciements, je voudrais poser quelques questions. Elles sont déjà presque touchées par les amis qui nous ont précédés. Mais si nous pouvons aussi les éclaircir, ne savons pas les surveillants seront sous surveillance de qui et ils seront payés par qui? Par qui ils seront-ils payés? Et à part les surveillants, comment le gouvernement congolais compte-t-il se rassurer que le test qu'il a envoyé ici a été surveillé de façon que on n'ait pas une situation qui ne puisse pas être vraiment en train de corroborer avec les questions qui ont été déposées ici. Tout en... Comme je suis en train de tendre vers la fin, je vois que ce sont seulement les deux provinces qui ont été concernées, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Je voudrais savoir pourquoi l'Ituri aussi n'a pas été concernée, considérée aussi comme province sinistrée et placée également dans la même situation que le Nord Kivu et le Sud Kivu.
Voilà, merci.
Voilà. Je suis en train de tendre vers la fin. Merci beaucoup pour l'espace nous donner.
Bon, merci à vous également, Lucie Zévaris, d'avoir appelé depuis Bukavu. Certainement, vous avez pris en cours de l'émission, mais pour l'Ituri. En tout cas, on a dans ce studio notre invité, l'honorable Amoule Kizito, député national élu de Haru dans la province de l'Ituri, qui a dit, qui vient de confirmer ici, que l'Ituri également concernait pour cette prise en charge du gouvernement pour le finaliste également du primaire et du secondaire de la province de l'Ituri. Certainement, il va revenir là-dessus. En tout cas, merci à vous, Lucie Zévaris, d'avoir appelé depuis à Bukavu et surtout que vous êtes enseignant. Voilà, Nora, vous avez suivi un certain nombre de préoccupations. C'est vrai, il y a des préoccupations qui concernent directement l'exécutif du pouvoir du gouvernement. On verra dans quelle mesure, en tout cas, avant... Le déroulement de toutes ces épreuves va voir soit la ministre elle-même ou bien son vice-ministre. Mais pour l'instant, comment réagissez-vous à toutes ces préoccupations?
D'abord, je salue les intervenants. Il y a Sylvain, Aguenon Adé Magui, il y a Maître Patrick, il y a Blaise Saïdi, de Kisangani, Patrick de Lubumbashi, il y a Ibisiza.
Lissiza Évariste de Bukavu.
De Bukavu, ok. Je crois ce qui est ressorti directement à ces quatre personnalités, c'est la joie. La joie parfaite est de considérer que le gouvernement peut prendre en charge ces frais-là. Parce que si vous voyez la situation que traversent nos compatriotes de ces côtés-là, c'est catastrophique. Si vous voyez Bukavu est suffisamment alimenté par Goma, par la voie navigable. Et les gens de Goma, avec Rutshuru et consorts, ils n'ont plus le temps de faire les champs. Et la plupart sont maintenant déplacés. Donc, ils n'ont plus les moyens de pouvoir travailler convenablement et prendre la charge. Il y a, par exemple, le cas de Sylvain. Sylvain a parlé des prises à charge des frais là, par les écoles publiques. Il a totalement raison. Nous allons, comme député national, nous battre pour que cela soit effectif. Je crois qu'il a raison. Pour les secteurs privés, chacun pourra faire, l'État pourra donner le cadre pour le fonctionnement. Mais pour ce qui concerne les écoles publiques de l'État, l'État a le devoir de pouvoir organiser les choses pour que ça se passe pour tout le monde. Si on prend le cas de Maître Patrick, il a parlé de la sécurité. Il a dit, mais si il y avait la sécurité, les parents auront suffisamment les moyens de pouvoir prendre en charge leurs enfants. Donc il a raison. Ça appartient à l'État de pouvoir sécuriser convenablement la communauté pour que les choses se passent normalement. Par rapport au salaire, je viens d'apprendre tout de suite là qu'il y a les enseignants qui sont à 3 mois impayés, je crois. Nous allons nous renseigner pour savoir quel est le problème, les vrais problèmes. Mais ce qui est bien, il nous appartient, nous, législateurs, et de pouvoir travailler avec le gouvernement qui est notre émanation, pour qu'il y ait la paix. Les Congolais ont trop souffert parce que la situation des guerres a mis les gens, met les gens tout le temps en difficulté. Par rapport à Blaise Saïdi, Blaise Saïdi a dit, le chargé, il a parlé de la charge des humanitaires, tout ça, prendre à charge, c'est un problème sanitaire. Il a remercié.
C'est un geste humanitaire.
Non, ou bien ça c'était sa question.
Ça, ouais, tout à fait.
Il a parlé d'abord de la réforme par rapport à l'obtention des certificats, qui est un problème, une grande problématique aujourd'hui, même les diplômes et même les certificats. Moi, j'ai fait souvent face à ça. Je vais vérifier les diplômes des gens qui ont fini très longtemps, qui n'ont jamais obtenu. Il a parlé des remises des certificats. C'est également ça aussi. Moi, si ça dépendait de moi, j'allais décentraliser les systèmes d'octroi des certificats et des diplômes. Parce que tout concentré à Kinshasa, ça alourdit les problèmes. Vous savez, même dernièrement, on avait fait aussi avec les bulletins doivent provenir nécessairement de Kinshasa. Et on amène les directeurs dans les chefs-lieux pour prendre les bulletins. Et les bulletins ne sont pas venus. Ils font des va-et-vient, tout ça. Ce sont des choses pratiques qu'on pouvait, d'une manière claire et décentralisée. La prise à charge des CVA. Je crois que l'école et l'État, quand l'État prend en mesure cette exemption, je crois, comme lui-même qui est organisateur des examens d'État et des examens d'État-nation, peut consorter, je crois qu'il pourra reconsidérer cet aspect-là de surveillance. Je crois, pour ça, quand on dit « on va manger », ça veut dire, quand on apprête à manger, il y a la braise, il y a les courants, il y a tout ça apporte tout ça.
Oui.
Bon, la troisième question de Blaise Saïdi, ça c'est un aspect humanitaire ou politique, où nous allons faire de la récupération politique. Je crois que ce n'est pas de la récupération politique. Moi, comme député national, je suis un homme d'État. Quand un parent doit faire des choses pour tous les enfants, soit doit répondre aux questionnements pour lesquels le parent veut faire quelque chose. Quand on a dit qu'on exemptait les enfants des Nord Kivu et Sud Kivu par rapport à la situation de guerre et l'état des sièges, je crois qu'il y a encore une province qui remplit les conditions d'être aussi considérée. Donc je crois que ce n'est pas un aspect politique, c'est peut-être un oubli auprès des autorités en place que nous avons rappelé. Parce que nous, comme députés nationaux, on n'est pas appelés à dormir. Il faut rappeler ce qui est équitable pour tout le monde. C'est ce que nous avons fait. Ce n'est pas politique, ce n'est pas nos plis humanitaires, c'est par rapport à la situation que traversent les parents. Si vous prenez la province de Nord Kivu, vous prenez la province du Sud Kivu et l'Ituri, en termes de contributions, en termes de fiscalité, ce ne sont pas des petites provinces, ce sont des grandes provinces qui apportent aussi beaucoup pour l'État. Quelque part, au niveau, on peut aussi rendre l'ascenseur, parce qu'un enfant qui vous amène souvent des biens, je parle, les parents là, les papas là, ne peut pas être indifférent vis-à-vis de celui-là. Je crois que c'est dans ce cadre-là. Pour terminer avec notre frère de Bukavu, Lissiza, il a parlé des remerciements, il a remercié, il a posé la même question que j'ai répondu là-bas par rapport aux surveillances, et rassurer les tests. Quand nous parlons des tests, nous devons savoir c'est lié à nos enfants. Les enseignants qui sont appelés à faire la surveillance, ils doivent le faire avec toute conscience. Un jour chez moi, les gens m'ont appelé pour me dire, écoutez, nous avons passé les examens d'État et chez nous, cette fois-ci, il n'y a pas de réussite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que tu puisses t'impliquer pour que nous puissions obtenir beaucoup les diplômes? J'ai dit non, ça ne se fait pas comme ça. Pour obtenir les diplômes, il faut étudier. Il faut que l'école soit en ordre par rapport au programme des enseignements. Il faut que les enfants qui sont appelés à passer les examens doivent se préparer. Et les enseignants qui sont appelés à diriger ces élèves-là doivent préparer suffisamment les enfants. Ce n'est pas que nous qui sommes des députés, nous pouvons octroyer des diplômes aux gens. Et cette confusion-là, j'ai fait taire ça dans ma communauté parce que les gens croyaient que si... vous avez un député à Kinshasa, il peut jouer pour que vos enfants puissent obtenir d'une manière massive les diplômes. Oh, ça ne se fait pas comme ça. Nous, notre problème, c'est étudier, c'est apprendre à lire et à écrire. Ce n'est pas tout pour la vie. Vous pouvez étudier et les systèmes que les Belges nous ont amenés nous ont appris à abrutir. On nous a appris à répéter exactement ce que l'enseignant dit. Ce n'est pas ça l'étude. Il faut laisser l'enfant à développer la capacité personnelle. C'est ça, orienter l'enfant. Parce que nous avons vu des enfants qui étaient génies, avec qui on a étudié, et quand on a fini, mais ils ne savaient pas faire la vie. Parce qu'ils croyaient que tout le temps, il faut avoir un maître pour diriger. Or, si vous préparez les enfants à affronter suffisamment la vie, et à comprendre que non, on étudie pour comprendre et lire et écrire, Et le reste, vous pouvez imaginer, et faire des choses d'une manière différente, c'est ça la bonne éducation.
Justement, on parle souvent de revoir le système éducatif en RDC, surtout à partir de l'école primaire, c'est important. Et c'est bien aussi de toujours faire en sorte que toutes ces pratiques qui n'avancent en rien, le pays notamment, pour ce qui est de ce que vous avez donné comme exemple, d'aider les gens à avoir des diplômes, surtout déjà, si c'est pas bon au niveau secondaire ou encore au niveau universitaire, mais encore, c'est pas bon au niveau de l'école primaire, c'est parce que c'est la fondation même de l'éducation. Voilà, on va poursuivre avec d'autres auditeurs. Nous avons Boudrili, Alphonse, qui nous appelle depuis Ngokolo, à Nitori, Franck qui y vient, et puis Jérémy Mamba qui est à Lubumbashi. Boudrili, vous avez la parole. Boudrili.
L'honorable Amoule. Oui, je salue chaleureusement l'honorable Amoule Arakayo Kizito, que je connais très bien, en tout cas, et vous aussi, et tous les auditeurs. Je suis très ravi, vraiment très ravi pour ce sujet que vous êtes en train de débattre aujourd'hui, Marcel. Sinon, dans un premier temps, j'aimerais dire merci une fois de plus à l'honorable pour son combat qu'il est en train de mener. Sinon, nous venions d'apprendre que l'Ituri était oublié. Alors, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Pourquoi, lorsque le Nord Kivu et le Sud Kivu, même l'Ituri sont dans un état de siège, comment se fait-il qu'on a seulement exclu l'Ituri? Et merci parce que l'honorable Amoule Arakayo était très intelligent. Il a vite remarqué que sa province ne figurait pas donc dans ce cadre-là. C'est pourquoi nous disons encore une fois de plus merci. Alors, sur le terrain, nous sommes en train de voir que il ne nous reste que quelques jours pour le début de l'examen d'État et même le TENASOS. Mais jusque-là, nous n'avons pas senti vraiment que réellement nous serons, ces frais-là seront pris en charge. Parce que pour nous convaincre davantage, et les parents, il faudrait, ça c'est un souhait pour l'honorable avec les autres qui se battent pour la province de l'Ituri, c'est de nous faire, de nous présenter un soubassement juridique. Sinon, nous connaissons que les Congolais, quand on dit quelque chose, tout de suite là, on tourne, on se dira, mais quel est le soubassement qui peut nous permettre d'agir ou de ne pas demander l'argent? Ça c'est mon souhait. Alors, parce que si je souhaite, ça c'est que nous connaissons, nous sommes tous témoins qu'il y a de cela presque 4 ou 5 ans, on avait aussi pris en charge la participation de l'ENAFEP. Mais jusqu'aujourd'hui, ça pose énormément de problèmes. Alors, ma crainte est que, est-ce que, avec cette prise en charge, nous n'allons pas retomber dans les mêmes pièges? Et puis, de l'autre côté aussi, je voudrais demander, quand nous voyons la circulaire pour l'examen d'État, les frais de participation à l'examen d'État, que ce soit la haute session, que ce soit la session ordinaire, il y a normalement la première phase qui commence par un paiement des frais de fiches d'inscription, y compris les frais de photographie. Alors, je voudrais souhaiter à ce que l'honorable se batte aussi pour que désormais les frais de TENASOS Pela prennent aussi en charge les frais de photos, parce que c'est important. On est en train de constater que les frais de photos se prennent autrement. Les frais de fiches d'inscription, c'est autre chose. Les frais de participation, c'est autre. Alors, on ne comprend pas, nous les parents, et nous qui sommes surtout dans les recoins-là, il faudrait qu'on puisse bien clarifier ces affaires. Donc, nous souhaitons à ce que, réellement, si ces frais-là seront pris en charge, que ce soit chose faite, parce que cela ne soit pas purement, bon, comme quelqu'un l'a dit ici, quelque chose de propagandiste. Donc, c'est un bon souhait. Nous disons encore une fois de plus, bon combat pour l'honorable Amoule Arakayo Kizito.
Voilà, merci beaucoup à Boudri Alphonse depuis Ngokolo, Nitori. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche, et là, donc, on va en dehors de nos frontières pour écouter Franck. Franck, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup à vous, Sassidio. Merci aussi, salutations à l'invité. Il y a des compatriotes qui ont déjà évoqué l'essentiel de ce que je voulais dire. Je pourrais peut-être seulement rappeler que quand on promet en public et on vient les défendre sur les ondes d'une radio comme la radio Capi, il faut vraiment qu'on se batte, que tout ce qui a été promis puisse aussi être matérialisé. Parce que ça ne sert pas de dire sans faire. Puis, on ne peut pas seulement penser aux enfants, payer ce qu'ils devaient payer et oublier les droits des autres surveillants, inspecteurs, correcteurs. Sinon, on risquerait de faire comme si on avance, puis on est en train de refaire du surplace. Et il y a aussi peut-être un souhait, il faut qu'on arrive à préciser exactement dans tous les coins du pays ce que les élèves des humanités, surtout ceux qui se préparent aux examens d'État, doivent payer. Parce que pour nous autres, on suit vos émissions, on intervient, nous avons des neveux, nous avons des nièces, mais parfois, quand nous recevons des rapports de ce qui leur est demandé au niveau de leurs écoles, ça nous met parfois dans des situations assez difficiles avec leurs instructeurs là-bas. Parce que moi, quand je dois intervenir pour le cas des neveux, un tel chef d'établissement peut avoir peur, il va penser que je vais aller l'accuser pour provoquer à ce qu'il perde son emploi. Et s'il y a quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est l'objection que l'invité venait de rappeler là par rapport à la conception même de la formation. Depuis beaucoup d'années, moi, j'ai toujours milité pour qu'on repense la conception même de l'éducation, parce que pour ceux qui ont fait le latin, il y a un proverbe qui dit « non scholae discimus sed vitam ». On n'étudie pas pour les points, mais pour la vie. Mais malheureusement, chez nous, en République démocratique du Congo, on est en train de constater que nous sommes encore esclaves de la diplomie, nous sommes encore esclaves de nos titres, de nos diplômes. On se contente seulement de larguer en public, je suis porteur de tel diplôme, de telle qualification, mais parfois on n'arrive pas à rendre en public les niveaux de diplôme qu'on porte. Alors, il y a déjà autant de complexes au niveau de notre conception. L'invité a seulement parlé de ce qu'on nous apprend, mais moi je peux encore enfoncer le clou plus loin. Monsieur l'honorable, merci beaucoup. Vous voyez jusqu'où ces complexes nous poursuivent. On détourne 500 millions au Congo, on va les placer ailleurs, on crée du chômage au Congo, on va créer les emplois ailleurs. Le Congo vous donne de l'argent à quelqu'un qui a détourné, au lieu même de penser à investir chez lui quelque part pour créer les emplois, aider même si c'est la source n'est pas honnête, mais on appauvrit les gens même au niveau du système de formation, au niveau du système éducatif et dans tous les niveaux. Et c'est comme ça que moi, quand je parle du concept de l'éducation, il y en a qui pensent que c'est seulement pour une manière de parler. Nous avons autant de problèmes dans ce contexte parce que au lieu de former des citoyens qui doivent travailler pour le bien de leur pays, nous formons des acculturés. On nous parle de la Belgique, de la France, des États-Unis, c'est pas mal au niveau de la culture. Mais on oublie de nous parler de notre propre pays, de nos propres cultures, de nos propres traditions, de notre propre géologie, si bien que à la fin des humanités, à la fin des universités, il y en a qui pensent que leur bonheur, c'est aller à Dubaï, à Paris, à New York. C'est comme ça qu'il faut d'abord avoir une vision claire de ce que nous voulons. Merci. Nous formons les enfants par rapport à quelle conviction, par rapport à quelle visée, par rapport à quelle finalité citoyenne. Mais tant qu'on viendrait faire des émissions sans que ça soit clair, de la base jusqu'au sommet, on ne ferait que des émissions alors que les vrais problèmes resteraient sans solution.
Voilà, merci beaucoup Franck, depuis Vienne dans le CIA, le réponsier, les systèmes éducatifs a toujours été en tout cas votre cheval de bataille. Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. Et on revient au pays et précisément à Lubumbashi pour écouter Jérémy Mamba. Jérémy Mamba, vous avez la parole.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, hein. Bonjour également à l'invité. Nous saluons certes les gestes du gouvernement allant dans le sens à pouvoir, n'est-ce pas, prendre en charge, n'est-ce pas, les élèves de l'autre côté de la partie orientale, n'est-ce pas, écumée par l'ennemi Rwanda ainsi que ses supplétifs. Alors, je voudrais ici d'abord commencer à relever le fait, c'est que nous devons à tout prix essayer de remettre les choses. Prendre en charge, c'est bien. Mais quelles sont les retombées? C'est ça le problème. Je voudrais à ce que, par exemple, je peux vous donner l'exemple. Parmi les trois épreuves qui sont prises en compte, l'examen d'État, nous avons l'ENAFEP ainsi que TENASOSP. Quand vous regardez pour moi, si ça ne dépendait que de moi, TENASOSP là vient tout juste encore créer une charge de plus aux parents. Je m'explique. L'enfant qui termine sixième année primaire, il doit être orienté. Et après orientation, l'enfant saura s'il est en mesure d'aller faire la section scientifique, pédagogique, commerciale, etc. Mais d'où vient ce que nous appelons la TENASOSP? Et on n'oriente pas les enfants correctement. Vous allez voir quelqu'un, il a été orienté ailleurs, mais
Jérémy, on a déjà fait, je pense, il y a quelques mois, une émission là-dessus, mais comme c'est pas le débat du jour, hein, si on veut bien vraiment s'en tenir au sujet, et peut-être on pourra revenir par rapport à ça une autre fois avec
Merci. Oui, voilà, oui. Ok. Merci. Alors, je voudrais dire ceci. L'État, les gouvernements, a les grands devoirs. Quand on assiste, ce n'est pas tout. Il faut mettre les garde-fous. Les garde-fous, ça veut dire quoi? Il faut sécuriser nos enfants qui sont à l'est. Combien de enfants meurent sur les en retournant à la maison? On peut aider, c'est bien. Mais il faut prendre préalablement des dispositions qui s'imposent.
Jérémy, il faut qu'on avance. Vous revenez sur ce que les autres ont dit. Merci d'appuyer. Qu'il faut également assurer la sécurité des enfants. C'est vrai.
Je voudrais juste terminer avec un petit point.
Rapidement, oui.
Oui, moi, je préfère actuellement, que le gouvernement puisse vraiment, les ministres qui seront là, parce qu'on voit que les ministres, tout ministre qui arrive au niveau de l'enseignement, il veut créer les innovations, mais ces innovations viennent contredire ce que son prédécesseur a eu à faire. Nous devons, après tout, l'enseignement, ce n'est pas comme l'agriculture. Ce n'est pas comme... L'enseignement, ça reste l'enseignement. On doit former...
Jérémy, on pourra revenir par rapport à tout ça prochainement. Merci d'avoir appelé depuis le Bombashi. On va prendre le tout dernier. C'est Pati Maïmba qui nous appelle depuis Bande Nouvelle. Pati Maïmba, avant de conclure avec notre invité, l'honorable Amoule Kizito, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ces sujets?
Oui, bonjour, cher Marcel. Bonjour à notre invité. Vraiment, en passant, nous saluons cette mesure qu'on peut appeler un dédouanement de nos frères de l'Est qui sont dans ce qui se retrouve là. Mais la question que moi je me pose ici, n'est-ce pas là comme une goutte d'eau dans un grand océan? Est-ce que c'est ce que nos frères là ont réellement besoin ou il faut aller au-delà? Hein? Qu'est-ce qui a fait d'abord qu'ils se retrouvent dans cet état-là où ils peuvent manquer les frais à payer pour leurs enfants? N'est-ce pas c'est l'insécurité? Est-ce que l'État a-t-il pensé comment mettre fin à l'insécurité pour leur donner eux-mêmes du temps de se retrouver? On ne peut pas dire que nos frères-là, ils sont sénéants. Non, ils sont forts. Ils sont à mesure de faire plus que ce que l'État va leur demander pour les
faire. Voilà, Pati Maïmba, on a plus assez de temps. Pati, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps. Quand vous insistez sur l'insécurité, vous avez raison. Il y a ceux qui vous ont précédé qui ont dit la même chose. Donc, on va pas revenir sur ça, mais vous insistez également.
Je voulais ajouter seulement un point de Kwamutu.
Allez-y rapidement.
Oui, j'ai demandé, mais cette même insécurité aussi se trouve ici, tout près de chez moi, ici à Kwamutu. Qu'est-ce que l'État a pensé pour ceux qui ont connu aussi les Mobondo ici?
Voilà, merci Pati Maïmba depuis Bandundouville. Je vais quand même lire rapidement une réaction, parce que j'ai promis de lire même une réaction de ceux qui ont réagi sur la page Facebook. Par aux auditeurs, il y a Doria Mukwando depuis Bandundu, il se présente comme journaliste à la radio, télévision, Bande de développement, il nous écrit ceci. Cette nouvelle du gouvernement congolais dépend en charge le frais des participations et évaluations certificatives pour les élèves du Nord Kivu et du Sud Kivu et potentiellement des Lituri est une décision significative et louable à plusieurs égards. Voici mes commentaires à ces sujets. Reconnaissance de la crise et soutien aux élèves, c'est avant tout une reconnaissance directe de la situation difficile et de l'impact de l'insécurité sur l'éducation dans ces provinces. En exemptant les élèves de ce frais, le gouvernement manifeste un soutien concret direct aux familles et aux jeunes qui sont déjà confrontés à des défis immenses, des placement, perte matérielle, traumatisme. Cela envoie un message fort d'espoir et de solidarité, promotion de l'équité et de l'accès à l'éducation. Voilà, ça c'était Doria Mukwando depuis Bandundu. On va conclure avec vous, honorable Amoule Kizito. En tout cas, vous avez suivi les uns les autres. Tout le monde est d'accord par rapport à cette exemption de participation pour ce qui est de frais pour les finalistes du primaire du secondaire, notamment pour les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu également. Vous avez parlé des Lituri, mais ce qui est vrai, les gens demandent que l'État doit tout faire également pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays. Surtout, les gens insistent, hein, vous avez suivi Boutrille qui a dit il faut absolument que l'État mette des mécanismes qui vont permettre de faire en sorte que cette mesure soit respectée.
Tout à fait. Il a raison, je pense, Boudril Alphonse de Willy Maloka, école s'appelle Willy Maloka, je suis content de l'avoir entendu ici. Il a évoqué des choses qui sont vraies, tout à fait vraies. Vous savez, nous, ma province, Ituri, est à la frontière avec le Sud-Soudan et l'Ouganda. Moi, je suis dans la chefferie des Kakwa, avec le Sud-Soudan et l'Ouganda. Si vous voyez la manière dont nous on fonctionne là-bas, c'est comme si c'est oublié. Donc, il y a des choses qui sont faites et qui se limitent quelque part. C'est comme cela que si ils arrivent à évoquer certaines choses, c'est parce qu'ils sont bénéficiaires. D'ailleurs, dans son école-là, il présente les diplômés chaque fois, mais il n'a pas l'agrément. Il n'a pas l'arrêté d'arrêté pour reconnaître. L'école date de plus de 20 ans, mais il n'a pas d'arrêté. Donc, on va prendre en compte ce qu'il a dit par rapport au paiement des photographies. Vous savez, au Congo, quand on donne à quelqu'un une opportunité de pouvoir récolter de l'argent, il crée aussi son truc à côté. Et les préfets, peut-être les autres, mettent un photographe là-bas et puis ils commencent à demander encore de l'argent. Donc, chez vous là-bas, chez nous là-bas, on demande de l'argent en francs congolais pendant que nous utilisons les shillings ougandais. Donc ça pose quand même problème par rapport à la situation. J'ai attendu Franck
rapidement vient, parce qu'on a pas
oui esclave qui parle des détournements. Il a raison. Nous sommes en train de crier parce que moi je suis à l'Assemblée nationale législative. Et c'est vrai qu'il y a des choses que nous sommes en train de nous battre pour que cela cesse. On peut pas aimer un pays et commencer à détourner ses propres moyens. Les Congos, si on utilise bien l'argent, les ressources de l'État, on ne peut pas envier. Même lui qui est à l'Autriche là-bas sait très bien quelle est l'importance de la RDC. Je pense que lui-là, s'il sait ce qu'ils sont à la RDC, si les choses s'arrangent à la RDC, il ne va pas rester là-bas. Il connaît parfaitement bien. Il y a Jérémy Mwamba qui a parlé de la sécurité. Il a raison. Les motifs primordiaux pour qu'on arrive à payer, à prendre en charge, c'est d'abord l'insécurité. L'État est responsable. La responsabilité est partagée. Moi, je suis de l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas à l'exécutif. Donc, nous sommes comme... comme grande institution de l'Assemblée nationale, on va devoir pousser les gouvernements à travailler convenablement. Parce qu'il y a des mesures qui sont là. Il y a Pati Maïmba de Bandundu qui a parlé aussi de l'insécurité. Et ça, c'est la prérogative qui revient essentiellement à l'État. Je crois qu'on va faire un effort pour que ça ne peut pas rester comme ça, chaque fois payer aux gens parce qu'ils sont dans l'insécurité. Il faut mettre fin à l'insécurité pour que les choses marchent.
Et vous avez suivi, il faut davantage sensibiliser notamment les enseignants, en tout cas du côté des littoraux, également des parents, pour savoir également que la province est concernée pour le non-paiement des frais de participation.
J'ai dit ceci, le ministre a insisté, il a dit c'est là qu'ils vont percevoir de l'argent, vont rembourser. Alors, je demande à ce que tous ces gens qui ont attendu, et j'ai demandé à mes collègues députés, là où ils sont, de commencer à faire la sensibilisation, de sorte que les enfants qui n'ont pas encore payé ne soient pas interpellés pour payer. Et ceux qui ont déjà percé l'argent doivent garder l'argent jalousement parce qu'ils vont répondre de cela.
Voilà.
C'est ça la justice.
Merci beaucoup, honorable Amoulé Kizito, député national du Haut-Rhin dans la province de l'Ituri. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci, Marcel Mombe.
Fin de ce numéro de parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à JC, ici à la quête, à la mise en onde, à Julie Bongonda et Gloria Lutula qui l'ont réalisé, coordonné à Nelson Nombe qui était là pour l'équipe multimédia au micro. C'était Marcel Ngomombala. À très bientôt.